Oui, on va commencer. Donc, merci à tous d'être là. Alors, c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir, d'avoir l'occasion, je veux dire l'opportunité de donner ce soir une conférence sur Jacques Babinet, parce qu'en fait, ça fait des années que j'en rêve, puisque je vais vous raconter en deux minutes comment Babinet est arrivé dans notre maison. Mais je voulais d'abord remercier le Collège Henri IV de ce partenariat auquel on a répondu tout de suite. Et quand on nous a demandé sur quel personnage, etc., vous voulez travailler, j'ai dit ben, Babinet, bien évidemment, Jacques Babinet, qui a été professeur au Collège Henri IV et qui est un personnage chargé de cours et qui est un personnage illustre, en effet, dans le monde académique et pas seulement dans le monde académique. Donc Babinet est arrivé ici parce que nous avons fait, il y a quelques années, produit un livre qui d'ailleurs est épuisé, donc ça sera peut-être l'occasion de le refaire, qui s'intitule « Aventure scientifique en Poitou-Charentes ». Voilà. Et c'est un livre qui était fait sous la responsabilité scientifique de Jean Dôme, qui est historien des sciences, et on nous avait demandé de chercher les savants originaires de la région, qui ne sont pas forcément restés dans la région, mais qui ont joué un rôle important. Et c'est un dictionnaire historique qui est fait par ordre alphabétique, avec une notice biographique, et puis ensuite l'intérêt de ce savant dans ses aspects scientifiques, etc., qu'ils soient nationaux ou locaux. Donc, on commence par Jacques Babinet. Donc, la première lettre, c'est Jacques Babinet. Et vraiment, c'était une découverte, ce personnage, parce qu'il illustre, et Patrice le dira très bien, il illustre vraiment le savant du XVIIIe siècle, et du XIXe siècle, pardon. Et on a été... moi, c'est un personnage qui m'a emballé. À tel point qu'en faisant des recherches dans les archives, dans les bibliothèques, j'ai constitué un petit documentaire sur Babinet dans mes archives. Et puis, on a commencé à faire des conférences d'histoire des sciences en partenariat avec Claude Templier, qui est ici. Donc, c'est aussi une vieille histoire, Claude, excuse-moi, mais nous, de toute façon, nous ne vieillissons pas tous les deux. Et qu'est-ce qu'on a choisi pour illustrer nos conférences? Là, bien sûr, la caricature du masque de Babinet. Donc, c'était un cycle de conférences d'histoire et de philosophie des sciences qui était faite avec les écoles doctorales, un grand travail. Et vraiment, bon, je sais que Jean Dôme, quand il a vu cette affiche, il l'a trouvée absolument géniale, il en voulait. Et ensuite, un jour, j'ai un coup de téléphone et c'est quelqu'un de la famille Babinet qui me dit « Madame, j'ai vu votre affiche, on se réunit tous, est-ce que je peux en avoir pour en mettre sur les tables ?» lors de notre repas. J'ai dit « Écoutez, madame, je suis vraiment ravie de vous avoir au téléphone. C'est l'occasion de parler de ce personnage illustre. » Et j'en ai envoyé quelques-unes, c'est pour ça qu'il ne m'en reste plus. Je les ai tous données. Je ne sais pas si vous en avez une, monsieur, mais alors on vous en trouvera une et puis on vous l'offrira. Donc on avait la couleur rose et l'autre année après, c'était la couleur rouge. Et vraiment, donc, je suis très contente d'avoir l'occasion, justement, dans le cadre de ce partenariat avec le Collège Henri IV, et aussi remercier le Collège Henri IV pour tout ce travail qui a été fait autour de Babinet, ce panneau, ce travail des élèves. Vraiment quelque chose de très dynamique, et aussi le travail fait au lycée du Camille Guérin, hein, de monsieur Fillou. Alors là, écoutez, c'est l'horreur, je me trompe, mais c'est l'émotion. Donc, on a aussi dans la salle notre un descendant de Babinet, j'aimerais bien qu'il dise deux mots, mais peut-être qu'il ne va pas vouloir. Mais vous avez édité par vous-même ces livres dont vous avez eu la gentillesse de nous les offrir, qui devraient être à la médiathèque de Poitiers, que nous avons tous ici, hein, Patrice là, puis d'autres personnes les ont aussi. Donc, Jacques Babinet de l'Institut, études et lectures sur les sciences d'observation. À la fin, on a une petite biographie de Babinet faite par une personne de votre famille. Donc, je suis vraiment très contente. Un 25 juin qui est aussi autant de monde. Et vraiment, l'Espace Mendès France aurait aimé avoir une salle Babinet. Alors, on est jaloux parce qu'au Collège Henri IV, vous l'avez déjà fait. On va y penser, non ? Samedi, il y aura la salle Babinet. Je pense qu'il le mérite. On s'était parlé déjà il y a quelques années et on avait parlé justement d'un projet Babinet. Donc c'est réuni ici, on a mis le temps, monsieur, mais c'est fait. Donc j'espère que vous êtes satisfait et que votre aïeul nous entend là, de là où il est et qu'il doit rire parce que je pense que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Donc je me permets de vous passer la parole deux minutes si vous le voulez parce que donc je présente quand même Patrice Remaud qui est historien des sciences à l'ESIP. Qui a fait une thèse sur l'histoire de l'automatique, qui fait beaucoup d'histoire des sciences de notre région et qui est aussi quelqu'un qui est passionné par ces sujets, différents et très disciplinaire, très interdisciplinaire, et qui a dit « s'il y a une conférence sur Babinet, je veux bien la faire ». J'ai dit « ok, Patrice ». Donc ce soir, tu vas nous parler de Jacques Babinet, qui est un académicien poitevin, Et vraiment, je te remercie beaucoup d'être là. Et nous avons aussi d'autres conférences en partenariat à la rentrée ensemble. Donc, merci à tous. Je vous passe la parole. C'est normal que ce soit vous.
Ouais, écoutez, merci beaucoup. Mais je ne vois pas très bien ce que je vais pouvoir dire ou ajouter, ni savoir anticiper sur la présentation que vous allez faire. Nous aimons. Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, je suis très, très ému de voir que Jacques Bébinet, avec un siècle et demi de décalage, puisse intéresser encore la communauté scientifique qui est ici et bien au-delà, tous les jeunes qui peuvent se pencher sur l'outil qu'il a perfectionné, prolongeant ainsi permettant de nouvelles découvertes. C'est un personnage qu'on aimait beaucoup dans la famille. On a mis quand même ce petit livre date de 1999, rédigé par un de mes cousins. Moi, je me suis contenté de l'avant-propos. C'était plus court. Et donc, on a mis un siècle et demi, mais on en rêvait tous. C'est un personnage qui est très attachant, très indépendant d'esprit. Assez controversé dans la famille, précisément à cause de son esprit très libre, alors qu'il était d'une famille de juristes, donc très, très encadré dans une société un petit peu fermée, qui était la fin du 18e à Poitiers, et il est allé à Paris, et là il a découvert le monde et le monde scientifique au travers notamment du mariage de son qu'il a fait avec son épouse, qui venait d'un milieu totalement scientifique. Alors je j'ai rien à dire de plus, et je vais vous laisser la parole.
Oui, donc tout a été dit, mais je maintiens ce que j'ai dit. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc oui, moi, je suis pas du tout un spécialiste, évidemment, de Jacques Bébinet, hein, comme dit Anne. Moi, je travaille dans une école d'ingénieurs, à l'école supérieure d'ingénieurs de Poitiers, dans un labo d'automatique, et j'ai écrit une thèse et un bouquin sur l'histoire de l'automatique, hein, une matière particulière. Donc je suis content, bien sûr, de parler de Jacques Bébinet. Le spécialiste, c'est Hugues Chabot, hein, donc, qui a écrit l'article dans le livre que vous a montré Anne. Alors, le titre que j'ai choisi un peu avec Anne, c'était en partenariat, un académicien poitevin, évidemment, et dessous, entre parenthèses, un savant vulgarisateur, hein, comme un petit peu, dont les jeunes gens tout à l'heure en ont parlé un tout petit peu. Hein, c'est vrai qu'il a été caricaturé, et j'ai quand même pris un malin plaisir à regarder ses caricatures, c'est assez intéressant, quoi, sur les thèmes qui étaient abordés, et puis qui était derrière ces caricatures. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, la première partie, enfin, donc le début, c'est juste pour rappeler que l'Académie des sciences, effectivement, c'est quelqu'un qui va rentrer à l'Académie des sciences. Hein. Je rappelle que c'est dans l'Institut de France, souvent on est un petit peu perdu, hein, il y a cinq académies, et dont l'Académie des sciences. Donc Jacques Bébinet va vers la cinquantaine, je ne me souviens plus exactement, 1840, non, je ne sais plus. Hein. Il va rentrer à 46 ans, quoi, à l'Académie des sciences. Là, j'ai mis un petit peu l'histoire. Les académies, hein, sont créées à la fin du 17e, entre autres à Paris, à Londres. Ça vient un peu d'Italie. Et puis, ben, les autres vont suivre. On était un peu au début de cette histoire, avec les Italiens et les Anglais. Là, c'est le texte qui établit l'Académie. Que doivent faire les académiciens ? Ce n'est pas l'objet. Alors, évidemment, Bébinet, c'est quand même un personnage avec des photos qui sont très... la reproduction de la peinture à gauche, hein, où on sent quelqu'un qui a une forte personnalité, quoi. Alors, il va rencontrer... c'est vrai que ce photographe Nadar, hein, visiblement, ils vont être très amis. Et on sent d'ailleurs, moi je suis sur cette photo, hein, on sent un personnage qui a été pris, on sent toutes ses caractéristiques, les caractéristiques de sa personnalité. Là c'est plus académique, on pourrait dire, hein, il est en habit d'académicien. Et les petites phrases qui sont dessous, donc qu'avaient relevé les jeunes gens, hein, c'est vrai qu'on voit un petit peu cet homme qui est grand, massif, qui a beaucoup d'humour, mais qui est en même temps, hein, quelqu'un qui est sérieux, enfin, qui va faire des études, bien sûr, très sérieuses et des recherches très sérieuses, mais qui était quand même quelqu'un qui a voulu se tourner vers le public, quoi, c'était quand même cette époque-là, au 19e, où on va avoir cette idée de sortir de la didactique, enfin, quelque chose d'un peu formel, puis essayer d'expliquer aux gens les sciences, quoi. Alors, il n'est pas seul, bien sûr, à cette époque-là. Alors, la célèbre caricature que tu as présentée, hein, qui est de Montbard. Alors, je crois que tu te souviens du nom. je me souviens plus de son vrai nom, du caricaturiste, hein, c'est pas Daumier, parce qu'on va voir tout à l'heure, hein, les principales caricatures que l'on connaît sont de Daumier, mais il me semble que tu as prononcé le mot tout à l'heure. Ou alors c'est de... Non, tu as peut-être prononcé un autre. Oui, tu vois, ouais. C'est un troisième, hein, oui. Donc voilà, alors là, c'est cette image qui a servi, hein, cette série de conférences, là, illustré cette série de conférences. Elle est de donc 1867. Et on le voit sur ces images, il est plutôt vieillissant, quoi, ici. Ici, il a une trentaine et ici, il a plutôt 70 ans, quoi. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement l'homme, hein, avec tout ce qui constitue la vie d'un homme, et puis sa carrière scientifique, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait dans le monde des sciences. Donc je vais essayer de développer ces différents points. Hein, je ne vais pas parler très longtemps, et ce serait intéressant qu'on ait une discussion après. Hein, je ne veux pas du tout... n'étant pas un spécialiste, hein, il est évident que ce livre est très intéressant, Robert Babinet, hein, La vie de Jacques, et puis l'article de Hugues Chabot qui est dans ce livre sont très intéressants. Je me suis appuyé sur ces deux ouvrages. Donc d'abord son enfance, alors comme il a été dit aussi tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, hein, c'est quelqu'un qui est issu donc d'une vieille famille poitevine, hein, qui est une famille de juristes. On trouve donc des traces de cette famille, hein, au XIIe siècle. Il est né donc à Lusignan, juste à côté, en 1794, donc c'est une époque trouble, hein, en France, hein, au lendemain de la Révolution française. Donc son père a été conseiller présidial de Poitiers, bon, au tribunal de Poitiers. Sa mère est d'une noblesse, hein, je pense, hein, petite noblesse, ou, hein, il me semble. Hein, corrigez-moi, n'hésitez pas. Hein. Hein. Ouais. Hein, une bourgeoisie poitevine autour, et associée à une jeune femme issue de la noblesse. Il a eu 4 frères et 2 sœurs, bon, une famille assez nombreuse, un peu comme à l'époque. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'est sa formation. Donc, c'est quelqu'un qui a... alors, j'ai trouvé des images, hein, du collège Henri IV. Alors, je le dis collège, lycée. J'ai lu cette histoire des collèges et des lycées. Hein, avant, le collège est une vieille institution du XIIe siècle, associée d'université. Ouais, au moment de la Révolution, eh bien, on crée ces écoles centrales. Ouais, on sent que ce mot lycée-collège va être associé successivement. J'ai mis collège Henri IV, hein, bon, parce que cette image est de 1840, à Poitiers. Donc il va, alors, oui, il la voit changer. Enfin, un petit peu en dessous, là, quand même, ici, là, il y a un petit peu de changement. Alors, ce qui est intéressant avec aussi Jacques Babinet, c'est un petit peu ce qui m'intéressait aussi pour les étudiants d'aujourd'hui, les élèves d'aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui avait la double culture, quoi. C'était un littéraire et un scientifique. Aujourd'hui, on aimerait bien qu'il soit littéraire et scientifique, hein. J'enseigne dans une école d'ingénieurs, donc je vois l'aspect scientifique, mais on sent bien qu'ils sont pauvres en littéraire. En faisant de l'histoire des sciences, je me rends bien compte. Les lettres, alors, c'est quelqu'un qui va être passionné et qu'on va retrouver. Hein, je vous montrerai quelques exemples de ses écrits où on voit cette plume qu'il avait. Et ce qui est aussi intéressant, en faisant de l'histoire des sciences, je découvre chez les grands savants cette aptitude à écrire, à bien écrire. On a travaillé avec des gens qui sont dans la salle, là, sur des textes de Galilée ou des textes d'Einstein. On sent ces gens qui avaient une maîtrise aussi des lettres. Donc chez Jacques, on le retrouve. Donc à 17 ans, il va partir faire des études au lycée impérial Napoléon. Alors Bonaparte, Napoléon, je ne sais jamais trop le nom, on trouve différents noms sur les documents, à Paris. Donc il va terminer ses études, hein, une année d'études à 17 ans à Paris. Puis il va passer, alors là il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Paul Binet, hein, qui est un enseignant qui est assez connu pour réussir à faire émerger chez les élèves cette fibre scientifique. Et il va donc devenir passionné des sciences et passer le concours de l'école polytechnique, hein, qui est la matière principale étant les mathématiques. Et c'est Paul Binet qui va lui donner des cours, qui va lui faire préparer ce concours. Il va y rentrer à 18 ans. Alors, ce qui surprend aussi, hein, j'ai présenté ce document à mes collègues du labo de recherche où je travaille, ils sont toujours surpris par la petitesse des études. Ça dure pas très longtemps, les études, à cette époque-là. Hein. Et il va faire l'école d'application. Oui, allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein, moi, ça me dérange pas du tout qu'on discute, hein, au contraire. Là, il y a des connaisseurs. Et alors, il va bien sûr faire l'école d'application. Il va faire une école d'application, alors une école d'artillerie. Et bien, en fait, on est en 1814. Il y a une coalition. Les Alliés envahissent la France. Et il se retrouve très vite à devoir combattre Et il a un comportement d'ailleurs très honorable hein, au combat. Et je vous montrerai un petit texte où il c'est un être sensible, je crois. Il est allé au combat avec beaucoup de courage, mais en étant lucide sur ce sang qui coule, quoi. Il est, hein, c'est pas du tout quelqu'un qui est sans esprit, quoi. Voilà, un peu autour de sa formation. Donc ce qu'on peut retenir, c'est quand même une double formation, hein, littéraire et scientifique. Alors, sa carrière militaire, donc je viens un petit peu d'en parler, et ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai trouvé dans le texte de Robert Barbinet, là, un extrait d'un de ses écrits, hein, qui vient de Études et lectures sur les sciences d'observation et leurs applications pratiques. C'est en 7 volumes, hein, c'est un peu la somme, je pense, de ses travaux, hein, que Anne a montré. Hein, c'est ce texte-là, un des volumes. Et là, il y a un beau texte sur ce côté sensible de Jacques Babinet, où il dit, Lucrèce dit qu'il est doux de voir se déployer dans la plaine le spectacle d'une grande bataille. C'est-à-dire qu'il, en tant qu'observateur, c'est beau la guerre. Et donc il dit, moi j'étais au milieu de mes je sais pas si je dois dire mitrailleurs, non, comme je sais plus le mot qu'il emploie, tirailleurs. Et bah il dit, il est doux de faire, puis il conclut, hein, je vais pas lire tout le texte, mais il est doux de tremper dans ce sang le talon de sa botte. Tout cela est doux, encore une fois, pourvu que l'on expose vaillamment soi-même sa personne au balai au boulet. C'est d'une lucidité, quoi. Et le poète, c'est beau, mais il était au cœur de la bataille, lui. Donc on sent, il a vraiment un aspect sympathique, humain, qui ressort de ses textes, souvent. Sa vie privée, alors on en causait tout à l'heure avec Georges Babinet, son descendant, c'est quelqu'un qui a eu, lorsqu'il va aller à Paris, il va rencontrer donc Adélaïde Laugier, hein, il va se marier avec cette jeune femme, il va, lorsqu'il va partir à Paris, il y a un conflit parental, on pourra en parler tout à l'heure avec Georges Babinet, c'est quand même quelqu'un qui va un petit peu se heurter à sa famille, quoi. Il y a une lettre, hein, dans ce document-là où on voit avec son père peut-être, hein, je crois. Il y a un texte où on sent que c'est un peu dur. Et il va rencontrer cette femme, et cette femme est issue d'une famille, donc là encore, c'est, en histoire des sciences, c'est très intéressant de voir le contexte de l'épanouissement de Jacques Babinet. On voit que cette famille Laugier, le papa d'Adélaïde, c'est un membre de l'Académie de médecine, on voit des Fourcroix, hein, l'Académie des sciences, on voit des grands noms, et donc il va côtoyer quelqu'un qui va pouvoir lui faire rencontrer des gens très intéressants. Donc il a sûrement cette rencontre déterminante dans sa vie, quoi, cette femme. Remarquez qu'elle meurt en 1849. Lui va vivre encore quelques dizaines d'années, une vingtaine d'années, et il se remariera. Il vivra très peu de temps avec cette femme. Je trouve que ça se passera mal. C'est à ce moment-là, il commence à avoir des problèmes d'argent. Hein, c'est quelqu'un qui était un peu, qui n'était pas du tout, si on pourra en discuter, hein, c'était sûrement quelqu'un de passionné par les sciences, mais qui ne se préoccupait pas trop de ses problèmes d'argent, et en fait, il s'est ruiné, quoi. Voilà, une facette de sa vie. Alors maintenant, son enseignement, donc c'est quelqu'un qui effectivement va venir vers l'enseignement. Hein. Il a 22 ans, hein, en 1816, lorsqu'il prend son premier poste d'enseignement de mathématiques à Fontenay-le-Comte, donc dans la région. Il vient au collège, effectivement, à Poitiers, très vite, l'année suivante. Il est chargé de cours de sciences physiques au Collège royal de Poitiers, hein, comme tu disais tout à l'heure. Et en 1820, donc, il remonte à Paris. C'est là qu'il va rencontrer sa femme. Il est nommé professeur de physique au Collège royal de Saint-Louis. Et il se fixe à Paris. Il restera à Paris. Donc, il va successivement occuper des postes qui sont intéressants, hein, des postes importants, comme examinateur à l'École polytechnique. Il va rester très longtemps examinateur à l'École polytechnique. Il a fait l'École polytechnique. Il va devenir examinateur. Il effectue des suppléances au Collège de France, hein, excusez du peu, quand même, au Collège de France, et surtout sur le cours d'optique d'Ampère. Alors, pour ceux qui ne verraient pas très bien qui est Ampère, moi, j'ai découvert, en faisant un cours sur l'histoire de l'électricité, que James Clerk Maxwell, donc pour ceux qui ont fait de la physique, hein, les équations de Maxwell sont les équations qui vont synthétiser l'électricité et le magnétisme, c'est la somme de l'électromagnétisme. Maxwell disait d'Ampère, c'est le Newton de l'électricité. Il savait de quoi il parlait, quoi. Donc cet homme, Jacques Babinet, va côtoyer des gens de la dimension d'Ampère. Hein. Donc il supplée Ampère, et il est nommé aussi astronome adjoint à l'Observatoire de Paris, hein, qui est un grand centre de sciences. Donc voilà un petit peu son cursus dans l'enseignement. Au niveau de la recherche, donc, j'ai mis les personnages, bien sûr, qu'il a rencontrés, avec lesquels il a travaillé, hein, donc grâce, bien sûr, à son beau-père, mais aussi par ses compétences, bien sûr, hein, par ses qualités. son beau-père qui était donc administrateur adjoint ou administrateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, peu importe. Et il va rencontrer donc là encore des grands noms, on a parlé d'Ampère, Fresnel, Arago, un des grands du monde de l'optique. Bon, Fresnel est quelqu'un... Alors, aussi, revenons sur le 19e siècle. N'oublions pas que la physique, au début du 19e siècle, il y a la mécanique de Newton qui règne en maître. Et puis, l'électricité débute au début du 19e. À 1800, le repère, c'est la pile de Volta. Et avant, on ne sait faire que, les jeunes gens l'ont causé tout à l'heure, hein, d'électricité statique. Mais pour le dynamique, eh bien, il faut quelque chose qui provoque ce passage du courant. Et c'est Volta, 1800. Et puis, toute l'électricité va en découler, quoi. Toutes ces découvertes de l'électricité, le magnétisme vient de loin, mais on va faire la fusion entre les deux, ce qui va donner l'électromagnétisme de Maxwell à la fin du 19e. Le bouquin de Maxwell, c'est 1873, je crois, quelque chose comme ça. Un exemple sur cette nouveauté de l'électricité, hein, c'est, je sais qu'Einstein, hein, je me suis beaucoup intéressé à Einstein, lorsqu'il fait ses études à la fin du 19e au Polytechnicum de Zurich, il apprend tout seul l'électromagnétisme. Ce n'est pas enseigné dans une des meilleures écoles d'ingénieurs à la fin du 19e. Donc c'est quand même là, Jacques Babinet et côtoie les grands et les débuts, hein, des matières que sont l'électricité, l'optique, hein, l'optique ondulatoire, l'aspect ondulatoire de la lumière, eh bien, c'est les phénomènes d'interférence, de diffraction, c'est Young, Fresnel, début du 19e, et puis ça se développe. Donc il est là, Jacques Babinet, avec eux. Je pense à la thermo qu'il côtoie un petit peu. J'ai vu tout à l'heure, on montrera, j'ai trouvé une image sur une pompe à vide, un objet technique, mais il est là aussi au niveau de la thermodynamique. C'est une matière qui émerge avec, ça m'a fait sourire parce que j'ai aussi, je donne un cours sur l'histoire de la thermo à l'école d'ingénieurs, et c'est Sadi Carnot qui est au cœur de l'émergence de cette matière. Et c'est un peu la même, enfin c'est pas la même histoire, mais ils sont très proches avec Jacques Babinet. Et ils sont pas loin d'être je me souviens plus exactement de la date de naissance de Sadi Carnot, mais c'est 1792, je sais plus, hein, mais c'est très très proche. Et ils ont dû se côtoyer à Paris. Hein, ce monsieur, Sadi Carnot, va mourir très jeune, à 36 ans. Il publie son livre en 1824, dans lequel il y a toutes les lois de la thermo. Il est incompris, et c'est quelqu'un qui va un petit peu déprimer et mourir très vite dans les années 1830. Et je pense qu'ils ont dû se croiser quelque part, quoi, avec Jacques Babinet. C'est fort probable. Revenons à Jacques Babinet. Donc, à 28 ans, il publie avec Ampère un résumé des travaux sur l'électrodynamique de son époque. Alors, j'ai anticipé en 1855, c'est bien sûr bien après, hein, où il va résumer un peu toute son œuvre scientifique, hein, dans ce livre que l'on a montré tout à l'heure. Alors, je rappelais qu'il est au cœur de quelque chose qui est fondamental en science, hein, c'est-à-dire la nature de la lumière. En science, ça a été déterminant au 19e. Depuis longtemps, se pose la question sur ce qu'est la lumière. Et il va publier, Jacques Babinet, en 27, un mémoire, hein, sur les couleurs des réseaux. Donc, l'analyse de la lumière, c'est fondamental parce que, par exemple, juste une anecdote, les travaux d'Einstein, c'est bien sûr la relativité, mais c'est aussi le début de la physique quantique, et le début provient des questions que l'on se pose autour de la nature de la lumière. Est-elle une somme de corpuscules ou est-elle une onde, comme à la surface de l'eau, quoi. Jacques Babinet, là encore, est là, quoi, en écrivant cet article. C'est intéressant. Alors, il va être quelqu'un qui va s'intéresser aux sciences et aux techniques. Hein, souvent, les techniques sont le parent pauvre des sciences et des techniques. Donc, c'est quelqu'un qui a une palette, hein, qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il ne va pas négliger l'aspect technique. Il va fabriquer, il va perfectionner des objets techniques. Donc, j'en ai mis trois exemples, dont un qu'on a vu de manière assez approfondie avec le goniomètre. Hein. Et il va, à travers ces exemples aussi, on sent ça, il est très éclectique dans ses intérêts. Et c'est sûrement ce qui va amener ce côté vulgarisateur. C'est pas pour rien qu'on va voir, parce que ce que l'on retient de lui, c'est principalement son aspect vulgarisateur à travers les caricatures, quoi. Mais il avait un passé de scientifique et de technicien, quoi, scientifico-technique. Et bien sûr, alors j'ai mis les honneurs parce que il a eu donc. Alors, il ne faut pas dire, il n'a pas été commandeur de la Légion d'honneur, il était chevalier de la Légion d'honneur. Hein. Ouais. il rentrait pas dans le moule, comme vous disiez tout à l'heure. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui était un peu frondeur, un peu, qui avait une vie particulière. Donc les jeunes gens nous ont lu ce texte-là de Flammarion, où on voit qu'il vit dans deux pièces avec des montagnes de bouquins. Il se fout un peu de tout ça. Quoi. C'est un passionné de science. Quoi. Donc il sera élu à la section de physique générale de l'Académie des sciences. Il a 46 ans. Alors toujours, hein, il va publier cette somme... il va publier un certain nombre d'articles, d'ouvrages, et cette somme d'articles hein, qui paraît en 55, qui commence la publication des 7 ouvrages, hein, je crois. Il y a 7 tomes. Alors la vulgarisation scientifique, moi, c'est ce qui m'a le plus fait sourire. Hein. J'aime bien le côté humoristique, et Jacques Babine était bien placé pour ça, je pense. Il aimait beaucoup cet aspect-là des choses. Alors, il va populariser les sciences, bien sûr, restons sérieux, c'est quelqu'un qui va populariser les sciences dans le grand public. Alors, j'ai trouvé, j'ai vu une image qui était intéressante sur la Revue des Deux Mondes, je crois, tu as aimé l'image. Donc, dans le Journal des Débats et dans la Revue des Deux Mondes, il va publier de nombreux articles hein, pour expliquer les sciences de son époque. Donc sur un ton humoristique, une chronique. Alors, la météo, hein, c'est aussi la météo qui l'a fait connaître. C'est rigolo, ça, il expliquait aux gens hein, comment on pouvait eh bien, prévoir le temps. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui... C'est assez passionnant, l'histoire des sciences. Nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des articles dans les journaux sur la mort d'Anton Lorenz, qui est à l'origine hein, de cet effet papillon dont on parle et... Bon, je pourrais divaguer sur plein de sujets, mais c'est intéressant sur l'effet papillon parce que la plupart des gens n'ont pas compris ce qu'avait fait Anton Lorenz. C'est-à-dire, la météo c'est extrêmement compliqué de manipuler les équations de la mécanique des fluides pour prédire le temps. C'est extrêmement compliqué. Et surtout, c'est très sensible aux conditions initiales. Lorsqu'on veut programmer ces équations, eh bien, lorsque vous changez un tout petit peu les valeurs de la pression atmosphérique et la température, eh bien, à la fin du calcul, c'est très différent, le résultat. Et Anton Lorenz avait dit un battement de papillon en Chine pour provoquer une tornade aux États-Unis. Les journalistes se sont précipités sur cette phrase en expliquant ça, et les gens ont compris, « Ouh là 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 là, s'il y a un battement d'aile de papillon, il va y avoir... » Mais pas du tout, c'est pas ce qu'il voulait dire, Anton Lorenz. Il voulait dire, dans l'ordinateur, lorsque vous introduisez une légère variation des conditions initiales, il va... à la sortie, il y avoir quelque chose de très différent. Donc voilà un exemple. Donc vous voyez quelqu'un qui déjà s'intéresse à ses calculs météo et astronomiques. Donc pour la Revue du Monde, il publie donc toujours des articles hein, de vulgarisation scientifique autour de thèmes. Je vais dévoiler donc quelques thèmes à travers ces caricatures. Hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui va être là encore en prise avec son époque. C'est un promoteur d'une culture scientifique qu'on retrouve à l'Espace Sciences France hein, et qui ne serait pas nécessairement didactique. Donc la grande difficulté, hein, il y a eu des conférences. Comment peut-on propager les grandes idées de la science sans les dévoyer, les tronquer? C'est extrêmement compliqué, quoi. Et c'est un homme bah, qui s'est coltiné ça. Alors, je lisais, je crois, je ne sais plus dans quel article ou dans un autre article, on pourrait le comparer à un homme que l'on connaît tous comme Hubert Reeves. Quoi. Ce sont des gens, en astrophysique, on rencontre beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts pour populariser leur matière. Et puis, c'est vrai que ça nous intéresse. Ça nous intéresse, les origines du monde nous intéressent, bien sûr. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a été important dans son époque. Donc, celui qui va le caricaturer de manière assez importante, c'est Daumier, hein, qui va nous laisser des caricatures très célèbres. Alors, Daumier n'a pas, bien sûr, caricaturé que Jacques Babinet. Alors, j'ai mis une caricature qui lui a valu 6 mois de prison, hein, Daumier, quand même, sur Louis-Philippe. Donc, c'était quand même pas très... Leur vie, quand on revenait sur les honneurs pour Jacques Babinet, effectivement, c'est pas très sain de s'écarter de la voie hein, tracée. Alors... Les images les caricatures. Alors j'ai mis dans le thème la vulgarisation. Voilà les images de Daumier. Alors c'est très rigolo. J'ai remis les textes dessous parce qu'on les voit très mal. Hein. Donc précaution indispensable que prennent les Parisiens lorsqu'ils sortent de chez eux, même en plein midi, depuis qu'ils ont appris par Monsieur Babinet que le soleil pouvait s'éteindre d'un moment à l'autre. Alors ils ont des petites lampes là parce que si des fois le soleil lors d'une éclipse. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui reprenait les calculs pour essayer de prédire la date de l'éclipse. Alors on l'a caricaturé parce qu'évidemment ces calculs n'étaient pas exactement au jour près ou comme d'habitude en science. C'est ce qu'on rigolait avec Claude Templier tout à l'heure. On enseigne les sciences, évidemment, ça marche jamais devant les élèves. Donc c'est un peu cette caricature là. Alors oui, par exemple, Monsieur Benet se décide d'aller éteindre lui-même quoi le soleil comme ça. Au moins sa prédiction sera vraie quoi. Voilà un petit peu ce que caricaturait Daumier. Et un exemple de désintérêt aussi, revenons aux intérêts de Babinet, c'est la mécanique, là, par exemple. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrisait un grand domaine des sciences. Hein. La physique ne lui faisait pas peur. Alors là, on revient sur les comètes, hein, toujours dans le domaine de la mécanique, l'astrophysique. Alors là aussi, c'est drôle. Hein, donc ça, c'est Cham, donc tu as dit le nom tout à l'heure. Mais il chasse très mal, votre chien. Ne m'en parlez pas, c'est un chien que m'a prêté M. Babinet. Il est constamment le nez en l'air à chercher des comètes. C'est vraiment rigolo. Et là, alors, aussi une caricature. M. Babinet est prévenu par sa portière de la visite de la comète. Alors, c'est toujours... je me souviens, c'était lequel savant grec qui regardait les étoiles, je ne sais pas si... Et puis qui tombe dans le... dans le puits, hein, de ses Thalès. Ouais. C'est rigolo, quoi. Toutes ces anecdotes de scientifiques un peu évaporées. Donc, effectivement, je pense que Jacques Babinet prêtait le flanc pour Daumier. C'était un sujet inépuisable. Alors, ouais, toujours autour des comètes. Alors, il y a aussi quelque chose qui était assez rigolo, que j'avais rencontré à travers l'histoire de l'électricité, c'est on va avoir l'idée de transporter les messages à travers des câbles, et pourquoi pas, quoi, à travers l'Atlantique, pendant qu'on y est. Alors, au milieu du 19e, on va être capable de communiquer entre l'Angleterre et la France, on va poser les premiers câbles, et puis on va se lancer vers les États-Unis, quoi, l'Amérique. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est là aussi où Jacques Babinet va participer à ça et va dire « on n'y arrivera jamais ». Alors évidemment, on va le caricaturer pour son côté un petit peu défaitiste. Quoi. Mais on ne va jamais y arriver. Alors, il y a une autre anecdote en science qui est très connue. Hein, c'est Lord Kelvin, William Thomson, un grand nom des sciences en Angleterre, va se faire une fortune à travailler sur ses câbles, à calculer des choses autour des câbles électriques, c'est-à-dire... aider les industriels à fabriquer et à poser ces câbles et à résoudre les problèmes. Et à chaque fois, il se faisait payer royalement. Quoi. Il sera anobli, hein, Lord Kelvin. Donc on voit là encore Jacques Babinet autour de tous ces problèmes. Et, mais lui, n'y croit pas trop. Quoi. Alors il y a marqué « Adversaire académique du cap transatlantique. Veut-il donc ce savant subtil avoir seul le fil ?» Alors on le voit en train de scier le fil pour dire « ça ne marchera pas, je vous l'ai dit, ça ne marchera pas. » caricature sur le câble aussi. Alors on... Comment ? Oui, hein, c'est rigolo cette assiette là avec. Ah. Oui. Ah, c'est rigolo. Ouais. Alors voilà, on était en 1858. Hein, c'est vraiment au milieu du Jean-Jacques Babinet à 64 ans. Hein, il est né en 1794. Donc il est au cœur de ce problème et il va prendre position, faire sûrement participer. À ce calcul. Alors, quelque chose que j'ai appris, moi, je me souvenais plus, ou si je l'avais rencontré une fois, le mascaré. Alors, c'est une fameuse histoire. Donc, qu'est-ce que le mascaré? Moi, soit j'avais oublié, soit j'avais jamais vu ce que c'était. Et j'ai vu des petites vidéos sur Internet. Merci, Jean-Claude. Sur lesquels on voit des vagues énormes. Donc le mascaré, hein, c'est lorsque la mer pénètre à l'intérieur d'un estuaire. Là. Et il y a vraiment, alors je crois que c'est en Chine, où il y a une vague de 9 mètres qui est arrivée comme ça. Et on voit ces Chinois qui courent sur un ponton et qui se font ramasser par la vague. Il y a eu des morts, je pense, à cause de ça. Alors on voit une image, c'est une onde très particulière, surtout pour les surfeurs, tu vois. Ça les intéresse beaucoup. Et oui, alors c'est sûrement un phénomène physique très, très étudié. Hein. C'est ça, hein, oui. Il y avait des accidents, d'accord, ça confirme. Mais... Oui, mais allez-y, votre heure.
Vas-y, monsieur. Arago ne croyait pas dans le chemin de fer. Et bon, on ne peut pas dire que ça n'ait pas été un développement indispensable à l'économie des pays. Et alors, il y avait au milieu du 19e des organisations de trains pour la journée qui partaient en campagne pour aller pique-niquer. Un peu. On appelait ça des trains de plaisir. Donc là, c'est un grand train de plaisir. Qui était organisé et où les gens veulent aller voir le fameux mascaret sur la Seine. Voilà. Alors certaines fois c'était bien prévu et puis voilà. D'autres fois c'était pas au rendez-vous.
Voilà, que prédisait Jacques Babinet.
Que prédisait Jacques Babinet, absolument.
Alors évidemment on prenait un malin plaisir à caricaturer parce que le mascaret était sûrement absent, pas au rendez-vous. Ce que l'on peut toujours observer, bien sûr, hein, comme on voit des images là d'aujourd'hui. Bien sûr. Alors, il y en a dans quelques points au monde, et donc sur la Seine, je crois qu'il n'y en a plus, non ? Hein, il n'y en a plus. Hein. Eh, ouais. Oui. Il n'y en a plus sur la Seine. Il y en a toujours sur la Dordogne, si on veut l'observer. Ça doit être un phénomène assez surprenant quand même à observer. Hein. Alors, les vagues scélérates, je ne sais pas. Ah, c'est autre chose, oui. Oui, qui se crée. D'accord. Donc, alors, un autre centre d'intérêt de Jacques Babinet, c'était les plus lourds que l'air. Alors, ça m'a fait assez sourire de lire ces textes. C'était rigolo. Et effectivement, on était. Je suis allé voir les débuts de l'aviation, quoi. Bah, effectivement, quoi. Est-ce que ça va pouvoir voler ou pas, quoi. Alors, son ami Nadar, là, il va faire construire un ballon et puis, il va l'inviter. Alors, il y a une belle lettre, là, de Nadar où il dit à Jacques Babinet. Viens, enfin, sois là, quoi, au rendez-vous. Je vais partir en ballon. Et le 4 octobre 63, le ballon va s'élever. Et Jacques Babinet écrit plus tard. Donc, avez-vous suivi la grande expérience? Donc, il était, bien sûr, entouré de scientifiques et d'intellectuels, on pourrait dire aujourd'hui, c'est pas de peintres, de photographes, qui le conviaient à venir à ces manifestations hein, scientifico-techniques. Donc, il était toujours là pour écrire des articles, toujours présent, toujours au courant de ce qui se passait. Donc voilà un petit peu, moi je ne voulais pas parler très longtemps pour qu'on ait des discussions après très ouvertes. Moi, ça, je ne suis, comme je le redis, hein, c'est une belle histoire de vie. Moi ça m'a beaucoup plu de travailler sur cet homme que je ne connaissais pas du tout. Évidemment j'avais vu cette image, mais on avait dû se poser, mais qui est donc ce monsieur Babinet? Le père Babinet, comme il disait vraiment très affectueusement, il l'appelait le père Babinet que tu as dit aussi. Donc voilà l'histoire d'une belle vie, hein, un homme et un scientifique. Alors, c'est aussi émouvant de voir son écriture. Moi, j'aime bien vous montrer. Alors, j'ai essayé de le lire, on essayait de le lire avec Sophie. Là, c'est un peu difficile. Il y a des mots que j'ai du mal à voir. Alors, aujourd'hui, nous avons des moyens techniques, donc j'ai utilisé une imprimante puis j'ai grossi quoi pour voir ce qu'il y avait de marqué. Bon, c'est pas fondamental, mais il écrit très bien et c'est toujours émouvant de voir cette écriture d'un savant quoi. Voilà. Et c'était en 57, donc il avait 63 ans. Donc c'est quelqu'un qui va s'éteindre en octobre 1872, donc à 78 ans, hein, je ne me trompe pas, à Paris. Voilà, ben, je vous remercie, puis je suis à votre disposition pour qu'on puisse discuter.
Merci Patrice. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou des remarques?
On va revenir sur la photo avec les trois instruments. Poser une question à Monsieur Malvaux. Est-ce qu'il est encore là? Je vais en profiter. Non, c'est pas un piège. On doit avoir les trois, je crois. Mais l'hygromètre, j'en suis pas. On a un hygromètre. Est-ce que c'est celui-là qu'on a? On a donc les trois. C'était juste. Voilà. Oui, c'est pour ça. Je l'ai pas encore déballé, donc je sais pas encore. Voilà. La machine automatique, ça c'est sûr. Et puis Balcognon, on l'a vu tout à l'heure. Ben, le goniomètre, on peut le reconnaître, il y a des soudures des fous qui sont mal placées, en fait, qui ne sont pas très jolies. Enfin, c'est ce que M. Malvaux m'a dit l'autre fois, mais c'est vrai qu'on les voit bien. Sur le goniomètre, il y a des soudures qui ne sont pas très jolies, sur celui qu'on a. Non, mais sur le nôtre. Enfin, je dis le nôtre, je me le suis un peu approprié. Pas le mien. Voilà. Mais il en existe bien sûr d'autres, donc...
Vous parlez tous en même temps. Oui, alors, pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Les deux autres images proviennent, je pense, de l'article de Hugues Chabot. Oui, proviennent de l'article de Hugues Chabot, du livre.
Mais je crois que ces photos ont été prises au Jean-Pierre. Oui.
Moi, j'avais une question. Je voulais revenir un petit peu sur l'enseignement qu'a reçu Jacques Babinet au lycée de Poitiers, hein, qui est devenu depuis le collège Henri IV. Bon, il a reçu un enseignement plutôt littéraire, on a vu, hein, dans cet établissement. Et ensuite, c'est son père qui l'a envoyé faire des études au lycée Napoléon à Paris, faire des études scientifiques cette fois-ci. Alors qu'il avait commencé vraiment littéraire. Hein. Et comment s'est fait ce changement? Est-ce que c'est son père qui l'a envoyé à sa demande ou... Enfin voilà.
Lorsqu'on lit le livre de Robert, c'est pas explicite. Mais...
Tu as ton micro là.
Et peut-être que vous avez un mot à dire, mais dans ce livre, et je peux vous lire Dans ses premières années, il montra de réelles dispositions littéraires et un goût prononcé pour les auteurs anciens. En même temps et en rupture avec la culture juridique de sa famille, son grand-père et son père vétérinaire, conseiller, il manifeste une passion pour les mathématiques et la détermination de suivre une carrière scientifique. Son inscription à l'école...
Savoir que le lycée Henri IV avait une tradition littéraire presque exclusivement, bien malgré qu'il y ait des préparations aux grandes écoles. Parce qu'il y avait, les préparations principales, il y avait même des Cirard, il y avait la Taupe, la Cagne, l'Agro, mais il y avait une tradition littéraire. On disait, dans les années 20-30, on allait au lycée Henri IV pour faire ses humanités. Oui, je crois, oui. J'étais pas à ce moment-là, je suis venu qu'après.
C'est dans la tradition.
Oui, oui, tout à fait.
Oui, ça provenait d'une histoire sur le lycée.
On a des manuscrits de Jacques Babinet où il écrit naturellement en grec et en latin, enfin comme il écrit en français. Il fait des plaisanteries en grec, je suis incapable de comprendre. Les quatrains en grec.
Savant, enfin pluridisciplinaire, enfin surtout philosophe et scientifique, quoi. Et il fait partie de ces générations-là hein, qui ont été pluridisciplinaires, quoi, vraiment, de ces savants-là. Claude, une question. Je la connais, donc il va la poser. Tu veux que je réponde avant ?
Non, juste une remarque pour dire qu'il y en a eu un autre après, ou De Breuil, qui a eu une licence de lettres avant de commencer à faire de la physique.
Tu avais une question à poser ? Je vais poser la question que vous voulez me poser, Claude. C'est, on n'a pas parlé de ses opinions politiques. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait bien qu'un scientifique, c'est aussi un homme. C'est aussi quelqu'un qui a une vie sexuelle, politique, tout ce que vous voulez. Et donc, on n'a pas peur d'en parler aujourd'hui. Hein. L'histoire des sciences a beaucoup changé pour ça à la fin du XXe. On parle de l'homme. Et donc, je pense que je vais laisser la parole à Robert Benet qui nous a très... Georges Babinet, pardon, qui nous a très bien expliqué un petit peu l'histoire de famille, quoi.
Alors, il s'était largement démarqué des opinions de son milieu, et en tout cas Babinet, du côté Babinet, qui était une famille très légitimiste, très... Bon, tout le monde connaît l'histoire du Poitou et la façon dont elle a traversé la période révolutionnaire. Et il est certain que la famille avait pris largement un parti, le parti de l'ancien régime, d'une certaine façon. Et en tant que tel, le parti de l'ordre, et pour des juristes, n'était pas très surprenant qu'ils aient fait ce choix, indépendamment de leur position religieuse. Alors lui, ce n'était pas du tout sa tasse de thé. En fait, il a quand même été candidat légitimiste qui montrait que, dans la Vienne, il n'a pas été élu parce qu'il n'y avait jamais mis les pieds, mais c'était complètement indifférent à sa pensée, et le milieu scientifique de parisien dans lequel il évoluait était absolument du même style, quoique on sait tous qu'Arago était quand même un républicain très, très, très marqué, que son cousin Germain Fourcroy était également très marqué. Arago, qui était le beau-père d'un de ses beaux-frères, qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, il était tout à fait... Donc il y avait, vous voyez, Lucie Mathieu, le père de Lucie Mathieu était président de l'Académie des sciences, et il était lui-même le beau-frère de François Rago. Et ils étaient plutôt, c'était plutôt des esprits avancés, on va dire, pour l'époque. Enfin, et on a une lettre de Jacques Babinet qui écrit à une de ses belles-filles au moment de la Révolution de 1848. Et ses idées, il a une certaine tendresse pour ce qui se passe par rapport à l'ordre établi de l'époque. Mais sans pas plus que ça. Donc il n'était pas très... violemment impliqué dans toutes ces affaires. Il était reçu dans tous les cercles de l'époque à cause de son esprit, donc il était aussi bien reçu par Napoléon III par la suite. Voilà. Donc, mais ce n'était pas du tout ses idées non plus. Il s'en fichait totalement.
Professeur de physique aussi ? Technologie, d'accord, voilà. Donc on retrouve de toute façon qui n'est pas passé Henri IV sur Poitiers ? Avec Monsieur Dufaux, que j'ai rencontré tout à l'heure aussi, voilà. Donc demain soir, merci à l'Espace Mendès France. C'est vrai qu'on a on a lancé une dynamique aussi ensemble. Je crois qu'il va pas s'arrêter parce que on a aussi des profs de physique, de SVT, de techno formidables dans la maison. Donc je crois qu'on a des choses à faire ensemble. Ça c'est évident. Demain c'est la conférence sur 400 ans de musique dans la chapelle du collège avec des ateliers faits par les élèves d'abord, puis ensuite une conférence autour de 400 ans de musique. Ah oui, il y a Monsieur Baron, ancien élève de l'établissement, qui est un éminent scientifique de la place Poitevine aussi, parce qu'il a été botaniste, qui est très connu. Voilà, il a écrit dans l'aventure scientifique, mais surtout aussi il est passionné de musique, et notamment de Guillaume Lequeux, qui a été un ancien élève de l'établissement et qui est mort à 24 ans. Donc ce monsieur a composé des œuvres, il a toutes les œuvres de Guillaume Lequeux, et demain soir il nous fait une partie de la conférence autour de Guillaume Lequeux. Et il m'a demandé un magnétocassette, même parce qu'il a aussi des cassettes. Et nous, on est plutôt CD maintenant que DVD que cassette. Enfin, on aura tout. Donc ça devrait être un moment aussi sympathique et où on va prendre des choses intéressantes sur cet ancien élève de l'établissement. Et vendredi, donc la présentation en avant-première du DVD, parce qu'on les a reçus aujourd'hui d'ailleurs, les DVD, avec tous les travaux des élèves qui ont été faits depuis un an. Il faut savoir que les élèves ont été suivis depuis un an. Les bénévoles, il y en a qui vont se retrouver dans le DVD, hein, ils vont se voir, ça c'est sûr. Des élèves, des bénévoles, des personnes qui sont venues aussi un peu expertes pour pouvoir nous expliquer des choses. Toute une séquence, qu'est-ce que tu dis ? Les anciens élèves aussi, on a fait toute une séquence d'interviews, si vous allez y venir, d'anciens élèves par des élèves actuels. Donc il y a tout un travail de autour de la mémoire aussi qui est assez intéressant. Enfin voilà, tout ça c'est dans le DVD, donc on en présentera une partie vendredi soir au local, centre socio-culturel en dessous le collège, un petit peu plus bas. Et puis samedi bien sûr, l'événement, voilà. Donc à 11h30, les personnalités qui sont, les personnes, personnalités, bénévoles qui ont pu nous aider, soit financièrement, soit aussi par les petites mains, hein, tout simplement. Donc toutes ces personnes-là sont conviées à venir partager le moment d'inauguration avec nous, parce qu'on inaugure trois salles, donc la salle Babinet, et Monsieur Babinet nous fera l'honneur d'être présent parmi nous pour le faire, enfin pour être avec nous et pour le faire. La salle Émile Faguet, parce que ça a été un académicien donc de l'établissement, il est passé dans l'établissement, et aussi la salle Louis Renard, parce que Louis Renard a été un résistant, et la rue du collège s'appelle la rue Louis Renard, et avant le CDI s'appelait la salle Louis Renard, la plaque a disparu, et quand on a reçu le fils de Louis Renard il y a quelque temps, il était désolé de ne plus voir la plaque concernant son papa. Donc on a décidé aussi de rebaptiser. Donc on va rebaptiser trois salles ce jour-là aussi. Donc la salle Babinet, ça sera la salle où il y aura toutes les vitrines, les panneaux, les instruments, etc. La salle Émile Faguet, vous avez pu voir dans la presse peut-être, parce qu'en ce moment, on y est assez souvent et à la télé. Merci. Donc il y a toutes les encyclopédies d'Hydro dont on parle un petit peu dans les coupures de presse, puis tous les ouvrages, parce que alors, je ne sais pas combien vous avez répertorié d'ouvrages scientifiques, monsieur Chaillet, ou monsieur, on en a combien là ? Voilà, donc là, toute cette salle n'est pas encore complète, parce qu'on n'a pas tout mis, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, il faut des gens. Il faut aussi de l'argent parce qu'il y a des bouquins à rénover, il y a de la salle à refaire, il a fallu faire une climatisation, enfin bon, je vous passerai tous les détails. Enfin, tout ça, ça a demandé des choses. Si la dynamique est lancée, samedi prochain, vous allez pouvoir approcher la salle avec déjà les encyclopédies d'Hydro à l'intérieur et la grosse partie, voire la totalité presque des ouvrages scientifiques. Voilà. Donc il y en a déjà tout un côté, tout un pan de mur complet d'ouvrages scientifiques. Donc ça c'est vraiment une émotion quand on a commencé à mettre, quand ils ont commencé, parce qu'ils m'ont appelé, parce que moi je dirige, mais je n'ai pas eu le temps de mettre les petites mains, mais je pense que je le mettrai à partir de l'année prochaine. Et il y a une petite émotion quand même quand on voit tout ça. Et puis bien sûr le CDI, la salle Louis Renard. Voilà. Il y a une expo sur Michel Foucault aussi, parce que Michel Foucault a été élève au collège, et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, grâce à l'amicale des anciens d'élèves, dont il y a le secrétaire qui est là, trésorier, secrétaire, et M. Bonneau, qui est l'ancien président, je crois, de l'AMICA. J'ai rencontré M. Girard, qui était le professeur de Michel Foucault, professeur de philosophie, qui est venu et qui m'a raconté des choses très émouvantes. Et là aussi, il y a un travail à faire, je crois, de mémoire auprès de nos élèves. Donc, je crois qu'on a aussi un travail à faire ensemble avec l'amicale des anciens élèves du collège Henri IV. Voilà. Donc, samedi, remise de prix aussi, exposition, travaux d'élèves, enfin, voilà. Ça va grouiller dans le collège parce qu'on a énormément de monde, mais en même temps, c'est un beau moment. Et 400 ans d'histoire, je crois que ça s'oubliera pas. Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'être présents ce soir. Et il y a le concert le soir, oui, c'est vrai. On termine par un concert sur 400 ans de voix dans la chapelle. On est presque à guichet fermé, je crois. Il n'y a plus de place, quasiment, au niveau du concert. Et ça va être un grand moment aussi, je pense. Enfin, voilà. Donc, merci à vous.